Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec...
Je m'appelle Aymeric, je suis un vivant humain de 27 ans et je suis doté et non pas atteint de ma particularité d'ASPI, autrement dit d'autisme Asperger.
Dans cet épisode, nous parlerons d'un monde fait d'inégalités. D'un monde traversé à vélo, d'éducation nationale et d'éducation populaire. Et puis d'éducation bienveillante, de différence et de différenciation, d'autisme et de développement neuronal. Et comme pour chaque épisode, d'alternatives. Un portrait enregistré sur Romna en novembre 2022, pendant la semaine des rencontres des cinémas d'Europe, mais de ça, j'en reparlerai plus tard. Bonne écoute, et on se retrouve à la fin de l'émission, afin de se dire au revoir.
Mon parcours, comme tout le monde, ça a commencé par la naissance. J'ai une scolarité plutôt difficile, et surtout au collège, lycée, où j'ai redoublé deux fois. J'ai eu aussi des bons moments, mais autant parce que j'ai subi des moqueries par mon physique et autant par ma particularité, j'ai eu des moments difficiles, collège, lycée. Après, j'ai su rebondir et ça a été dans l'animation socioculturelle, où là, j'ai trouvé... dans ce métier-là, la possibilité justement de reprendre ce qui, à mon sens, n'a pas été bien fait par l'éducation nationale surtout, et de proposer d'autres formes d'éducation qui sont autant l'éducation populaire que l'éducation à l'environnement, que l'éducation à la culture. Et voilà, donc je suis parti dans ce métier-là et j'ai pu... Ouais, je pense que ça a été une première partie difficile, une deuxième où au contraire j'ai pu prendre confiance en moi, j'ai pu m'affirmer. Mais malgré tout, mon diagnostic, il est arrivé quand même assez tard. Et il est arrivé quand j'avais 18 ans à peu près, si je dirais. Et je pense que là aussi, c'est pour ça que j'en profite d'avoir ce micro, je pense qu'il y a, voilà, il y a énormément de choses à faire autour de la question de la singularité, de la particularité, dans le cas de l'autisme et du syndrome d'Asperger, enfin voilà, tout ça. Je pense qu'il y a quand même en France beaucoup de retard, beaucoup de non-sensibilisation, enfin ouais.
On va reprendre un petit peu sur ton parcours. Ouais. Du coup, dans ton environnement familial, comment ça s'est passé? Comment ça s'est réalisé? Comment tu l'as vécu?
Alors, c'était un moment où, au lycée, malheureusement, j'ai vécu ce que je nommerais, malheureusement, du harcèlement. Me retrouvant dans une position difficile, j'ai été à l'hôpital. Et là, ma mère est arrivée avec un papier en me disant « Voilà, moi, je pense, Aymeric, que tu as sans doute ce diagnostic-là de ce syndrome d'Asperger. » Et au début, j'étais assez neutre, on va dire. Je me suis dit « Ben, pourquoi pas ?» Et puis ensuite, il s'en est suivi une série de tests, entre guillemets, que j'ai passé à Valence pour diagnostiquer ce syndrome d'Asperger. Et du coup, en ayant vu des documentaires, en m'intéressant un peu sur le sujet, effectivement, il y a eu énormément de choses dans lesquelles je me suis retrouvé. Là, je pense qu'il y a la question des images qui rentre en jeu, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule image de l'autisme, il y en a plein, et c'est très divers. Et encore une fois, je pense qu'en France, il y a beaucoup de retard par ça. Et donc, ma mère, qui bien sûr a toujours été très tolérante avec moi, qui nous a toujours poussé dans ma famille à faire ce qu'on a envie d'entreprendre, elle m'a beaucoup aidé, beaucoup accompagné. Et voilà, et bien sûr, dans mon entourage, ça a été très bien vécu. Et aujourd'hui, en dehors de mon entourage familial, j'en parle de plus en plus librement, voire même librement, parce que c'est un peu comme une forme de coming in ou coming out, et je pense que c'est important d'en parler, parce que si on se tait, ça permet pas à d'autres personnes, je pense, de s'exprimer, donc voilà.
Thank you. vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, en compagnie d'Emeric, qui, au-delà de nous partager son témoignage de vie, habille également cette émission de sa musique. Retour à l'entretien.
Je pense qu'en tout cas, pour ce qui est de la question de la discrimination et tout ça, c'est la question de la différence et qu'à mon avis, au collège, lycée notamment, il n'y a pas assez de sensibilisation sur ce que c'est la différence et qu'à mon avis, il faut être très simple, on est dans une culture qui est beaucoup sur la différenciation que la différence, mais pour en revenir à ça, l'idée peut-être que j'étais encore plus que des adolescents entre guillemets normaux, j'étais beaucoup dans l'imitation et à toujours suivre sans vraiment avoir de libre arbitre parce que j'ai souvent été dans l'imitation parce que j'ai souvent du mal, aujourd'hui ça va mieux, mais à décoder les attentions sociales, les rituels sociaux, toutes les subtilités, on va dire, des relations amicales, non amicales et tout ça. Et du coup, ça a pu m'impacter sur ça parce que voilà, j'étais souvent à suivre au lieu de pouvoir m'exprimer, on va dire, librement. Sur l'autisme, clairement, le truc le plus différent, on va dire, par des personnes qui n'ont pas d'autisme Asperger, d'autisme, tout simplement. On a beaucoup de mal avec les relations sociales, mais en tout cas, moi, maintenant, ça va parce que j'ai mon recul de vie, parce que j'ai eu des outils et tout ça, mais clairement, si justement le diagnostic intervient tard, qu'on n'est pas équipé, qu'on ne sait pas comment le faire, ça peut être très difficile. Et puis aussi, au niveau scolaire, par exemple, ça peut être aussi des difficultés d'intention à un moment donné, parce qu'une salle peut être trop bruyante, trop lumineuse, parce que nos sens sont, on va dire, plus développés. C'est pas qu'on est des X-Men, mais c'est juste que, voilà, la proportion d'un bruit, d'une lumière trop importante, ça amplifie beaucoup de choses pour nous, parce que c'est un développement neuronal aussi, l'autisme, tout simplement. C'est-à-dire qu'on c'est pas une maladie, ça c'est important de le dire, et on est avec, on devient pas autiste, en fait. On le naît parce que c'est un développement neuronal, en fait, tout simplement. Et voilà. Mais à l'inverse, ce que je dirais juste, c'est que maintenant, ça va justement beaucoup mieux. Je me sens libre et je vois que, parce que aussi, je suis adulte, donc je sais que les adultes sont, parce que en tant qu'adulte, je pense qu'on a plus de culture de la tolérance. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'adultes qui, inconsciemment ou pas, m'aident et à décrypter certaines choses certaines subtilités que je ne pourrais pas encore connaître. Mais aujourd'hui, je pense que je suis dans un bon équilibre entre moi et les autres. Moi, si je ne me trompe pas dans les termes, c'est toutes les personnes qui ne sont pas autistes, c'est des neuro-atypiques, et toutes les personnes du spectre autistique, parce que le spectre autistique, c'est une famille, en fait, il faut le savoir, ça veut dire que le syndrome Asperger, c'est dans la famille de l'autisme, donc c'est pour ça que c'est complexe. On dit autisme dit léger, parce qu'il y a des autistes qui vont pas parler du tout, d'autres qui vont faire beaucoup avec les mains, d'autres qui vont au contraire être entre guillemets très adaptés à la vie sociale. Enfin, c'est pour ça qu'on, contre justement des images, parce que les images sont très importantes dans notre société, l'image d'une seule forme d'autisme à la Rain Man, à la Forrest Gump, il y en a plein d'autres. Voilà, et même moi, je me rends compte des fois, j'aimerais en savoir plus sur mon sujet, c'est juste parce qu'en fait, moi, il y a d'autres sujets qui m'intéressent aussi, mais je pense que j'aimerais des fois me prendre un temps et pouvoir vraiment fouiller les choses pour aussi transmettre justement à d'autres personnes, autant autistes que non autistes.
C'est la troisième émission où nous abordons par le biais de témoignages la thématique de l'autisme. Si vous voulez découvrir les émissions précédentes, cherchez et trouvez l'épisode 67 et 73. Retour à l'entretien.
Voilà, après, c'est autant mon libre arbitre d'adolescent à l'époque que mon diagnostic qui a fait peut-être que je me suis perdu dans la voie. Mais en tout cas, à la fin de ma seconde, j'ai fait une réorientation plutôt dans l'animation. J'ai travaillé en été, après avoir eu mon BAFA, dans un centre de vacances, auprès de différents clubs d'enfants, pour faire de l'animation et participer à des spectacles le soir aussi. Et j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, ma mère s'étant intéressée sur le sujet, elle m'a proposé Elle m'a parlé d'une formation qui aujourd'hui s'appelle le CPGEPS et qui avant s'appelait le BABAD. En gros, c'est une formation professionnelle dans l'animation socioculturelle qui est sur un an, qui est niveau CAP et qui est comme sur un BAFA sur un an, en gros. Ben voilà, j'étais en centre de loisirs et j'ai travaillé sur les activités et j'avais une option activité manuelle, donc c'était vraiment super bien. Et dans ce métier-là, encore une fois, pour revenir à ce que je disais un peu vers le début, c'est que justement, j'ai retrouvé cette idée de pouvoir montrer d'autres formes d'éducation, parce que dans, je pense, tout ce qui est MJC, centre de loisirs, école alternative, association d'éducation populaire, ce genre de choses, il y a vraiment des idées qu'on peut défendre et des idées notamment qui... des idées pour dire que la diversité, elle est importante, elle est intéressante et que l'éducation, elle est très importante pour que justement cette diversité, elle soit un atout plutôt qu'elle soit mise en retrait, qu'elle soit pas comprise. Et voilà, et du coup, j'ai travaillé 5 ans, je crois, dans ce centre de loisirs, 3 ou 5 ans. Et ensuite, je suis parti en voyage. Un voyage dans lequel, justement, j'ai repris le symbole de mon centre de loisirs qui était une licorne. Et donc, j'avais une peluche licorne avec moi. Et pendant mes voyages, je prenais en photo, en vidéo, cette licorne pour sensibiliser les enfants, notamment, et un peu les familles, sur voilà, comment voyager sans avion, comment partir à la rencontre d'autres pays, d'autres cultures, comment aussi on peut donner de son temps plutôt que de l'argent pour faire tout ce qui est woofing, ce genre de choses. J'ai fait un peu de bateau stop aussi. C'est-à-dire que j'ai été équipier non professionnel sur un bateau et on a été du nord de l'Espagne jusqu'au sud du Portugal. Et voilà, du coup, ça a été une expérience très importante aussi dans ma vie. Et après ça, j'ai fait un service civique. C'était au moment du confinement, je suis rentré pour travailler en France quelques semaines. Et pendant le confinement, j'ai voulu chercher un service civique et j'en ai trouvé un à Alba la Romaine. Et pareil, c'était une super mission où j'ai pu mettre en place un parcours sur la biodiversité du site d'Alba la Romaine, sur les vestiges. J'ai découvert l'Ardèche, qui est un lieu duquel je reviens souvent. Et suite à ça, après ce service civique-là, j'ai encore eu envie de partir, mais tout en travaillant plutôt dans ce qui est classe verte et tout ça, ce qui me permettait de travailler en quelques temps tout en continuant à voyager. Donc j'ai fait du woofing, j'ai fait des chantiers participatifs, j'étais notamment à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a été très intéressant au niveau éducation populaire, notamment au niveau alternative, enfin ce genre de choses. J'ai fait beaucoup de stages personnels de mon côté, c'est-à-dire des stages que j'ai payé par moi-même parce que j'avais envie d'en découvrir. Donc aujourd'hui, je continue et maintenant, j'ai la chance d'être dans un centre dans la Drôme vers qui je reviens souvent, où là, je fais plus des animations d'éducation à l'environnement. Et ça me plaît beaucoup parce que justement, plus tard, je voudrais pouvoir faire des formations toujours dans l'animation, mais là, qui sont... avec des mentions d'éducation à l'environnement ou d'éducation culturelle, et là qui sont à niveau bac et qui suit donc mon parcours. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire dans le futur, mais j'ai envie de continuer à voyager, avoir ces expériences professionnelles, voyager, alterner entre tout ça, faire du bénévolat, voyager à vélo, un peu à pied aussi si je peux, enfin voilà, et trouver à la fois être un peu dans tous les sens et tout en trouvant une direction commune à tout ça quand même. Et voilà.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/associationresonance. Rezonance. Retour à l'entretien.
L'animation socioculturelle, donc voilà, encore une fois, ce qui va être dans les centres de loisirs, MJC, mouvements d'éducation populaire qui peuvent être autant voilà, les SMEA, CMEA que l'UFCV, que la Ligue de l'enseignement ou même Résonance par exemple. Comme je pense avoir subi à certains moments beaucoup de mauvaise éducation entre guillemets dans l'éducation nationale, je pense que c'est l'idée de pouvoir reprendre à son compte comment on veut transmettre des connaissances, des sensibilités, comment on veut sensibiliser à des notions voilà, de diversité, de citoyenneté. Et après, je pense qu'il y a bien sûr, ça peut jouer mon diagnostic là-dedans, mais en même temps, il y a aussi ma sensibilité d'humain, tout simplement, d'humain et de connaissances dans le monde que je suis aussi. Et ça permet juste ouais, peut-être d'avoir été de l'autre côté, de pouvoir aider, parce que j'étais un peu dans la critique, mais moi, ce que j'aimerais beaucoup aussi, c'est pouvoir aider peut-être des instits et pouvoir leur dire, ben voilà, il y a d'autres possibilités de faire, notamment ben, peut-être en étant dans l'éducation, en étant peut-être plus dehors, en favorisant plutôt le faire ensemble, l'entraide, ce genre de choses. Et c'est encore une fois ce que j'arrive à faire dans ce centre, dans la Drôme où j'ai travaillé récemment et que je reviens souvent en classe verte, où des instits arrivent avec leurs élèves et nous, à Nîmes, on arrive à amener nos idées d'éducation bienveillante, d'éducation un petit peu alternative, d'éducation en dehors et de montrer tous les bienfaits que ça a. L'idée principale de pourquoi là j'ai envie de m'exprimer, c'est déjà la notion voilà, de démystifier les clichés sur l'autisme et de montrer que en fait, dans mon nomadisme, en fait, en allant à la rencontre d'autres mondes, en fait, autant d'autres mondes que ça peut être en woofing en France que rencontrer quelqu'un d'autre en Grèce par exemple, il y a l'idée qu'en fait la diversité elle est multiple et que de sortir un peu de sa zone de confort, aller vers l'extérieur, en fait c'est quelque chose qui m'attire, qui m'assure beaucoup et qui me donne de la force. Et que justement l'idée d'un autiste qui serait forcément renfermé, qui serait forcément très attaché à un quotidien très cadré, ben en fait il y a aussi le libre arbitre qui rentre là-dedans et qui a pas, reprendre encore cette idée, mais qui a pas encore une fois une seule forme d'autisme et qui a l'idée aussi de pouvoir être une personne humaine tout simplement. Et en voyage, et ben je rencontre énormément de personnes, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de moments en vie collective et que justement ça me plaît énormément, que j'arrive à trouver ma place là-dedans, que en découvrant autant d'autres paysages que d'autres visages, c'est moi-même qui me rends compte, autant en rencontrant les autres, et que cette ouverture-là, pour toute personne, elle est très importante et ça permet ouais, d'être ailleurs, et c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est qu'être ailleurs, en fait, c'est dans le voyage, je pense, c'est quelque chose à exprimer que notre société ne permet pas toujours, parce qu'on a, toujours, que ce soit à l'école ou ailleurs, on permet pas forcément peut-être toujours l'évasion, je sais pas, il y aurait peut-être quelque chose à creuser là-dessus, mais en tout cas l'idée que être ailleurs c'est important, voilà. Être ailleurs dans un voyage, être ailleurs des fois par soi-même, être un peu ailleurs de la société, c'est important et je pense qu'il faut le faire et on se rend compte qu'on n'est pas le seul à vouloir être ailleurs. Pour revenir à mon parcours, ayant travaillé donc 5 ans dans un centre de loisirs vers Besançon, j'ai décidé de partir en voyage. Et pareil, ça a été une autre grande étape importante de ma vie. Et dans le voyage, j'ai trouvé justement, j'ai envie de dire, d'autres formes qui m'ont amené à me découvrir, justement en allant vers l'autre, vers d'autres paysages, d'autres visages. Et ça m'a permis autant que moi-même, et je pense que ça permettra aussi à d'autres personnes de démystifier tous ces clichés, voilà, d'une personne autiste qui serait enfermée dans sa bulle, qui n'aimerait pas l'aventure, qui vivrait dans des cases très normées. Et voilà, et actuellement, je suis toujours en voyage avec un vélo et j'enchaîne des expériences un peu comme du woofing, du bénévolat justement à résonance, des petites itinérances à vélo de plus de 3, 4, 5 jours. Voilà, j'adore découvrir l'Europe aussi. Et dans mes voyages aussi, j'essaie de réfléchir à comment je voyage. Où je voyage et j'essaie le plus de faire à pied, en vélo, sans avion, majoritairement en France et en Europe, parce que je pense que on parle beaucoup d'écologie, de réchauffement climatique, et je pense qu'en fait c'est des questions d'inégalité dans tous les cas, et que en fait entre le réchauffement climatique, moi qui m'exprime en tant que qu'autiste Asperger, la question, je sais pas moi, des exilés, la question par exemple de personnes LGBT qui sont discriminées, je pense que c'est tout un monde d'inégalités qu'il faut reprendre. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire et voilà. Et dans mon parcours, je continue à enchaîner tout ça et à continuer à m'intéresser à l'éducation populaire aussi pour justement, dans l'éducation en termes général, l'éducation des parents, l'éducation culturelle entre guillemets, et surtout dans l'éducation nationale, moi j'ai toujours envie de militer et de montrer que d'autres formes d'éducation sont possibles pour que justement je ne puisse, pour que d'autres personnes derrière n'est pas à subir ce que je pourrais subir moi, et que dans la société, la pluralité, la diversité de tout, autant les humains que les non-humains, elles soient prises en compte.
Voilà, on arrive à la fin de l'entretien. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route et on retrouve une dernière fois Aymeric qui tenait à rajouter quelque chose.
Là où les personnes qui écoutent ces émissions et qui se retrouvent dans ce que je dis, comme moi-même d'ailleurs, par d'autres émissions, œuvres, livres, etc., j'ai pu me retrouver là-dedans, qui se demande si, parce qu'elle a une diversité, une singularité, et qu'elle en a peur d'en parler, je pense que c'est important de dire que c'est important de parler de soi et de ce qu'on est vraiment, et si on a une particularité qui peut être autant une orientation sexuelle que son handicap, que sa culture... Que sa culture d'origine, par exemple, eh ben c'est important d'en parler, je pense, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul et que ça permet à d'autres de continuer à s'ouvrir à nouveau. C'est comme un effet papillon positif, quoi. Une personne se met à parler, donc ça donne envie à d'autres d'en parler, et ainsi de suite. Et si humblement, peu importe le niveau et l'intensité que j'ai, que c'est, eh ben, que c'est d'avoir pu faire ce témoignage-là, eh ben, ça sera bien. Voilà.
Il y a une pie qui est ouais. D'accord. C'est un jet, c'est une pie ?
Je dirais que c'est un jet des chaînes, mais c'est un jet des chaînes.
Ok, merci. Ouais. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Aymeric. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage par Indy Grande et musique par Aymeric himself. Deux mots sur les rencontres des cinémas d'Europe qui se sont déroulées en Ardèche en novembre dernier. Pendant une grosse semaine, une dizaine de jeunes, dont Aymeric, ont créé, réalisé et animé la web TV du festival. Nous vous ferons revivre de l'intérieur ces moments dans les prochaines émissions. Vous pouvez d'ores et déjà, via la page YouTube des Rencontres des cinémas d'Europe 2022, découvrir les trois plateaux de TV réalisés par les jeunes. Pour réécouter cette émission ou découvrir les émissions précédentes ou connaître tous les projets de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/associationresonance. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.